l'invité du jour.
À 7h45 ce matin, en direct, évidemment, notre invité Thierry Richard. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Thierry Richard, candidat aux législatives sur la circonscription de Montluçon. Alors, votre silhouette est bien connue, souvent ornée de petits manteaux en fourrure, petite cigarette à la main, parfois également sur la terrasse de certains cafés. Mais au final, on vous connaît peu. Qui êtes-vous, Thierry Richard?
Ah,
c'est dur, hein, comme première question.
Disons, je suis un être humain, je pense, déjà à la base. Je vis sur la planète Terre, et puis ensuite, j'ai des passions dans la vie, mon métier, bien évidemment. Et puis, la passion de la littérature, ça c'est un autre pan de ma personnalité. Et puis, bien évidemment, j'ai des enfants et j'ai envie de changer la société, d'où mon implication sur le programme que vous connaissez pour le Parti des Évidences Concrètes.
On va en parler dans quelques instants. Vous êtes gynécologue, pour ça que j'ai dit donc docteur tout à l'heure. Vous êtes arrivé à Montluçon il y a combien de temps ?
Je suis arrivé, 3 ans et demi. J'avais un contrat de collaborateur avec le docteur Ducrot qui s'est interrompu le 31 décembre. Et là, je réouvre mon cabinet dans quelques temps, dans 2-3 mois, sur Montluçon. Donc, j'ai fait le choix de rester parmi vous.
Oui, c'est notamment parce que c'est vrai que Montluçon, il y a une pénurie de gynécologues. Hein. Vous
le ressentez,
ça ?
Et puis moi, sur les 3 ans et demi, je me plais bien ici. Humainement, j'ai une bonne patientèle qui compte sur moi. Donc, je vais rester par ici.
Alors, vous étiez auparavant en Bretagne ?
Oui, j'étais à Guingamp auparavant, oui.
Pourquoi Montluçon plutôt que, je ne sais pas, Aix-en-Provence ou...
Pour y gagner ma vie. Moi, j'ai eu un projet de centre de naissance aquatique sur Guingamp qui a échoué. Et donc, je cherchais un remplacement. Et je suis venu ici pour 15 jours pour remplacer un de mes collègues qui est décédé durant ces 15 jours. Et de fil en aiguille, je suis resté ici.
D'accord. Donc, vous y sentez bien, globalement?
Oui, absolument. Humainement, je trouve que je fais des très belles rencontres. J'ai déjà des amis ici, alors que ça fait que 3 ans et demi que je suis là. Donc, moi, ça me va bien.
Bassin de santé qui souffre au niveau de la santé, on le sait un petit peu.
Absolument. Mais vous savez, la pénurie de gynécologues, c'est vraiment général. Hein. Moi, je vais sur mes sites de demande d'emploi. J'ai 10 demandes tous les jours dans l'ensemble de la France. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est pas spécifique complètement à Montluçon, je dirais.
Donc, docteur, médecin, gynécologue, écrivain, puisque vous sortez un livre.
Oui, je sors mon deuxième roman. D'ailleurs, je fais une dédicace à la librairie des écoles samedi 28 à partir de 15h. Donc, c'est mon deuxième roman. C'est une, on va dire, pour résumer, c'est une autofiction. J'en dis pas plus parce que j'aime bien être surpris. Je suis un lecteur moi-même. J'aime bien être surpris. Donc, c'est mon deuxième.
Deuxième ouvrage. Le premier, c'était il y a quelques temps.
Ça fait 4 ans, mon premier roman.
Véritable passion pour l'écriture, donc?
Ah oui, carrément. Ça y est. Ça m'a pris.
Bon. Et puis, passion aussi pour, alors, je sais pas si on peut appeler ça de la politique, mais en tout cas, vous avez annoncé il y a quelques semaines, notamment dans la presse régionale, que vous étiez candidat aux législatives sur cette circonscription de Montluçon. On rappelle que les législatives, ce sera au mois de juin. Pourquoi cette candidature ?
Moi, c'est pas la première fois que je me présente. Moi, parce que j'ai envie de rendre, comme je vous l'ai dit, j'ai des enfants, j'ai envie de rendre cette société meilleure qu'elle n'est. Il y a des choses qui me paraissent évidentes, d'où le nom du parti, Évidence Concrète. Moi, ça fait longtemps, enfin, ça fait un moment, c'est pas la première fois que je me présente. Je me suis présenté à plusieurs législatives, déjà une fois au Laurent-Sainte-Marie, une fois à Guingamp. J'ai fait 2 cantonales, j'ai fait 1 municipale. Et le programme reste le même, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent dans ce qu'on propose. Donc, c'est une suite d'évidences concrètes. C'est vraiment des choses concrètes. C'est pas des idées générales. Et ça va un peu dans tous les coins. Mais c'est un programme complet, c'est un programme global qui peut se tenir budgétairement, etc. Donc, ça tient la route.
Partie des évidences concrètes que vous avez vous-même créées?
Oui, absolument. Je suis plus le président. Parce qu'on a une deuxième candidature à Guingamp pour les législatives, toujours avec l'étiquette du PEC. Et c'est le président qui se présente là-bas. Moi, je suis le fondateur. J'ai été président, mais je suis à l'initiative de ce parti.
Alors, quand vous dites évidence concrète, c'est quoi, justement?
Je donne toujours un exemple. On me dit souvent, ouais, c'est un pléonasme. Alors, une évidence, c'est une évidence. Alors, un exemple, c'est que nous, on est antimilitariste, ça c'est l'évidence. Et l'évidence concrète, c'est que dans notre programme, on supprime l'armée.
D'accord.
Voilà, pour résumer en un seul exemple.
C'est une décision forte, pour le coup, qui peut surprendre.
Ouais. Ah bah oui, mais de toute façon, nous, c'est un programme révolutionnaire, qui est tout à fait plausible. Hein. C'est une utopie. L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. C'est un programme d'avenir, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de mesures qui vont pas du tout dans l'air du temps. Ça, c'est bien clair et net.
Notamment sur l'emploi, vous avez une proposition phare?
Proposition phare, ouais, c'est déjà aider la création d'emplois, ça c'est en première place sur notre programme. Et nous, on propose que l'État donne une subvention de 15 000 euros par création de CDI. dès la création de CDI. Parce que lorsqu'on a une création, lorsqu'on a une idée, on bloque toujours sur les finances. Là, ce serait une mise de fonds significative, 15 000 euros par CDI. Et 15 000 euros, pourquoi ? Parce que c'est ce que coûte un chômeur sur une année. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on aide la création de CDI que de payer des gens au chômage. Ça, c'est la mesure principale. Parce que c'est l'emploi, c'est là que ça se passe. Après, il y a le pouvoir d'achat, où on propose naturellement une revalorisation conséquente du SMIC, parce que quand on travaille, il n'est pas légitime de gagner 1000 euros par mois, ça me paraît insuffisant, enfin, etc. Donc, en termes d'emploi, c'est surtout au niveau de l'aide à la création des entreprises et donc des emplois par l'intermédiaire de ces 15 000 euros dès la signature, dès la création du CDI.
C'est une mesure qui s'autofinance, donc vous le dites, puisqu'on ne paye pas d'éléments liés au chômage.
C'est l'État, absolument. Oui, alors ça, bon, même s'il y a une défaillance sur deux, c'est ce qu'on évalue en cas de création d'entreprise, il y a 50% de réussite. Ben, ça fait quand même qu'on a économisé 50% sur un an déjà. Donc de toute façon, ça s'auto-budgète sans problème. Ça crée même des économies très rapidement.
En matière de santé, qui est un peu votre domaine peut-être de prédilection, quelles sont vos propositions, les propositions que vous allez porter là dans les prochaines semaines ?
Bah, de toute façon, c'est dans notre programme. Donc, il y a naturellement le remboursement de la contraception des soins dentaires et optiques pour tout le monde. Il y a le développement. Alors, après, on est pour le droit à l'euthanasie également. Ça, c'est très important. On est pour la gestation pour autrui. On est également pour le développement, c'est des mesures un peu plus techniques comme l'hospitalisation à domicile, qui est une mesure phare qui serait source d'économie sans perte d'emploi. Et puis la création d'une banque publique de cellules souches, parce que c'est un domaine précurseur, mais qui serait important de mettre en pratique. Après, c'est des mesures concrètes, techniques, ça serait un peu difficile de rentrer plus dans les détails.
Bien sûr, justement, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails de toutes les propositions, puisque le temps file déjà vite. Y a notamment tout un volet sur ce que vous appelez la répression, où vous proposez notamment la légalisation du cannabis ou la réouverture des maisons de tolérance. Alors ça, forcément, ça fait beaucoup parler, il faut que vous nous expliquiez.
Ouais, le cannabis est devenu une évidence concrète, ça fait longtemps qu'on en parle. Là, il y a des candidats aux présidentielles légitimes, comme Mélenchon, qui en parlent ouvertement.
Certains candidats des primaires de la gauche aussi.
Il y a des États aux États-Unis, le dernier en date étant la Californie, qui ont légalisé. Il y a des États en Amérique latine, je crois que c'est l'Uruguay qui a légalisé. Ça fait baisser la délinquance, ça remplit les caisses de l'État, et en termes de santé publique, on sait que la répression ne marche pas. Ça, c'est pour... Donc la légalisation du cannabis, c'est une question d'années, mais ça, c'est inéluctable. Maintenant, c'est devenu une évidence concrète. Les maisons de tolérance, c'est pareil. Hein. C'est une histoire de santé publique. Moi, je suis très porteur sur la santé de par ma profession. Donc, c'est déjà pour les conditions de travail, hygiène et sécurité des professionnels, de ces femmes libres, on précise, et ce serait de les protéger, de leur donner de bonnes conditions de travail pour un phénomène qui est inéluctable, éradiquer la prostitution, comme certaines ministres disent, et la pénaliser à outrance comme on fait en France, pour nous, c'est certainement pas une solution.
Alors, ce sont des propositions qui détonnent un petit peu dans le monde actuel. Vous l'assumez totalement, ça ?
Oui, pour nous, ce sont des évidences concrètes. C'est pas sorti du chapeau de je sais pas qui, d'ailleurs. Mais c'est des choses qui sont documentées. Il y a eu des commissions pour le cannabis, ça fait 20 ans. Il y a eu la commission Henriot qui prenait une dépénalisation à ce moment-là. C'est un sujet battu, rebattu, mais c'est un sujet de société. Et comme peut-être qu'il n'y a pas 50% des gens qui sont d'accord, nos hommes politiques prennent pas les décisions, parce qu'ils se portent par rapport à l'opinion publique. Il n'y a pas beaucoup de courage politique, je dirais quoi.
Pour ceux qui pourraient penser que votre candidature est insolite, une farce, quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous avez à leur répondre ?
Un de mes slogans, c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Les mesures qu'on propose, bon, on sait bien, je ne pense pas être élu à cette législative-là. Après, bon, on ne sait jamais, hein, faut toujours espérer. Mais bon, c'est montrer un témoignage et susciter le débat sur les sujets dont on parle.
Comment vous allez mener campagne là dans les prochaines semaines ?
Je suis en campagne en permanence, c'est-à-dire j'ai toujours des programmes sur moi, je vais sur les marchés, je vais dans les bistrots, je rencontre des gens. On va faire une petite opération pompon sur les marchés Saint-Pierre et Ville-Gauzet, avec une distribution de pompons à nos couleurs, c'est-à-dire le orange pour les enfants qu'on rencontrera. Et puis bien évidemment, on va aller se promener dans la circonscription, parce qu'il n'y a pas que Montluçon, bien évidemment, c'est une législative.
Est-ce que vous avez un objectif chiffré ? Est-ce que vous irez au bout déjà de la démarche ?
Ah ouais, mais de toute façon, moi je suis breton à la base, donc on va jusqu'au bout des choses. Puis en plus, c'est pas la première fois, j'ai rien à prouver de ce côté-là, je vais au bout. Si on fait 5%, ce serait génial.
D'accord. On va suivre ça, évidemment. Merci, Thierry Richard, d'être passé à notre micro ce matin. 7h à presque 56 minutes. On continue.
L'invité du jour.